feu, une émission de Catobel, Angélique Tasio, Manu Van Leer.
Bonjour, soyez les bienvenus dans Plein Feu avec Angélique Tasio. Bonjour Angélique.
Bonjour Manu, bonjour à tous.
Et notre invité aujourd'hui, Jean-Marie Van Butseleu. Bonjour Jean-Marie.
Eh bien bonjour à vous deux.
Jean-Marie Van Butseleu, en février dernier, vous avez pris la route pour un voyage de 1180 km à pied vers Palomas en Espagne. Une marche au profit d'associations aidant les enfants malades ou porteurs de handicap. Vous allez nous partager cette fantastique aventure, mais avant cela, nous allons faire un retour en arrière pour parler d'autres marches caritatives que vous avez réalisées, bien sûr, depuis 20 ans et revenir sur votre parcours personnel. Jean-Marie, où avez-vous grandi et étiez-vous déjà un grand marcheur dans votre jeunesse?
Oh là là, mon Dieu, oui, j'ai toujours aimé bouger pas mal. J'ai grandi, en tout cas, pour répondre à votre question, j'ai grandi sur Woluwe Saint-Pierre, à Bruxelles, qui est une commune de Bruxelles. Et j'y ai passé la grande partie de ma jeunesse, en fait, dans le scoutisme. Et le scoutisme, évidemment, nous fait marcher pas mal, et lors de haies, et ainsi de suite. Donc, c'est une belle découverte. Et moi, j'ai toujours aimé ça, en fait. Voilà. Donc, en plus, j'avais un copain, là, malheureusement, il est décédé. Et nous avions comme ça, donc le vendredi, parfois, on prenait la décision, tiens, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Et, oh, on irait bien à Mur à pied, machin comme ça, tu vois. Et voilà, c'était déjà...
Et vous avez toujours été fort sportif, 35 marathons à votre actif,
oui.
C'est juste?
Oui, absolument, oui. J'ai couru un 100 km également, ici à Louvain-la-Neuve, aussi pour une cause, hein. C'était pour Télévide à ce moment-là. Et aussi pour donc, la maladie hein, de l'enfance. Oui, moi, j'aime le sport, j'aime la montagne. J'ai guidé pas mal en montagne, j'ai guidé pas mal en spéléologie. Voilà.
On peut dire de vous que vous êtes un sportif.
Actif, je vais dire sportif, c'est peut-être encore autre chose. Hein, donc, parce que je pense qu'il y a ces entraînements, il y a tout ça. Moi, ce n'était pas trop mon truc. Alors, l'entraînement, je fonctionnais un petit peu sur mes acquis, mais sans chercher la performance. Voilà, je ne voulais pas être le premier, mais je voulais le faire.
Et au coup de cœur.
Voilà, tout à fait, c'est le mot.
On va parler de votre carrière professionnelle. J'ai vu que vous aviez fait carrière à la gendarmerie et à la police fédérale. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a guidé vers ce choix de carrière?
Bon, j'avais 18 ans, et puis voilà, donc je cherchais un peu une voie pour le futur. Et bon, j'étais toujours quand même... J'avais un penchant quand même pour l'autorité, je veux dire, l'armée, les pompiers, la gendarmerie. Et puis finalement, j'ai choisi la gendarmerie. Je suis rentré à l'école royale de gendarmerie où j'ai fait mon temps, donc mes écoles. Puis j'ai fait tout un parcours en brigade. Les brigades de gendarmerie à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui les commissariats de police hein, en zone locale. Puis j'ai passé donc à la BSR, ce qui est l'équivalent de la police judiciaire en fait. J'ai fait quand même pas mal d'années là-dedans. En fait, oui, j'ai même terminé ma carrière dans ce travail de police judiciaire, si on peut dire, mais avec deux casquettes, hein, puisque j'étais dans l'antiterrorisme. Et puis à partir de 1978, il y a eu donc une grosse catastrophe à Los Alfaques en Espagne qui a amené pas mal de personnes, de victimes en fait, dont 32 Belges. Et là, s'est mis en place, en Belgique en tout cas, une cellule d'identification des victimes. Et voilà, pour être bref, donc j'en ai fait partie et j'ai terminé ma carrière comme cela.
Un travail rude, ça.
C'était un travail particulier, oui. C'était mettre un nom sur les malheureuses victimes, mais aussi donc permettre aux familles de faire leur deuil. Pouvoir aussi donner leur dernier hommage à la victime disparue. Et donc pour cela, il faut avoir évidemment une identification formelle.
Et vous aviez l'occasion d'accompagner un peu les familles?
Ah oui, bien sûr. J'étais très proche avec les familles. Et même encore aujourd'hui, j'ai encore des suivis avec certaines familles. On est resté soudés parce que finalement, à partir du moment où vous identifiez une personne, il y a donc... pour la famille, vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes la dernière personne qui a eu le contact avec leur être cher, et pour ces familles, c'est très important.
Et comment est-ce que vous assumiez ça, sans être vous-même bouleversé par ces découvertes?
C'était pas l'aspect de la mort, c'était plus ce contact relationnel avec les familles qui m'apportait évidemment quelque chose d'important.
Et l'idée de faire justice, de découvrir ce qui s'était réellement passé?
Non, ça, c'était pas mon métier. Non, faire justice, c'était pour les unités de recherche dans la police judiciaire, vraiment, qui menaient certaines enquêtes. Mais donc, dans les catastrophes, par exemple, ça n'avait pas de raison d'être. Hein. Donc, l'important, c'était de permettre justement aux familles de retrouver leur être cher, de ne pas être en attente, et de les amener vers cette période de deuil le mieux possible. Et, oui.
Vous aviez suivi un accompagnement particulier pour pouvoir, à votre tour, accompagner ces gens?
Non. Donc, moi, j'étais vraiment donc à la base de la création de ce service qui s'appelle le DVI, Disaster Victim Identification en anglais. Donc je me suis fait sur le tas vraiment, donc le vieux crocodile, j'ai fait quand même pas mal d'années, donc, puisque j'ai arrêté à 64 ans en fait mon métier.
On comprend que ça a été un métier prenant. À côté de vos missions pour la police, aviez-vous déjà l'occasion de vous investir dans des associations, de faire par exemple du bénévolat?
Le bénévolat, je l'ai peut-être commencé très tôt, puisque par le scoutisme déjà, c'est une forme de bénévolat, puisque quand on grandit dans le scoutisme, on devient animateur et c'est une forme de... Oui, d'aider les plus jeunes et de leur faire passer aussi des messages importants. Et voilà, donc ça c'était mon premier contact, je vais dire, avec le bénévolat. Puisque c'est une petite histoire que je raconte toujours. Quand j'étais chef de patrouille, hein, les CP, on disait à l'époque.
Hein, on dit toujours ça.
On dit toujours ça, voilà. En fait, j'allais contacter le curé du coin et puis je lui disais, voilà, écoute, moi je voudrais bien faire une action dans la paroisse ici. C'était à Saint-Alix, hein, pour citer, qui est une paroisse de Woluwe-Saint-Pierre. Et il me donnait donc des listes de personnes précarisées qui étaient en difficulté. Et alors, bon, j'allais en fait chez les gens les plus nantis, j'allais chercher des sacs de charbon. Les sacs de charbon 20-30, ça s'appelait comme ça. Hein, il y avait les petits boulets aussi. Hein. On allait porter ces sacs de charbon avec des grandes charrettes ainsi, qu'on allait d'abord remiser ce charbon au manoir Malou, rue au bois, si je me souviens bien. À Woluwe-Saint-Pierre. Et alors, quand on avait 150, 200 sacs, on commençait à les livrer aux gens plus en difficulté financière. Et voilà, ça, c'était une forme aussi de bénévolat. Et puis, il y en a eu d'autres. Moi. J'ai toujours été très, très penché, très porté pour tout ça. Et puis, voilà, la marche m'apporte aussi cela aujourd'hui, puisque finalement, je marche pour des associations.
Vous aviez 17-18 ans, là, hein, quand vous évoquiez votre travail de CP, de chef de
patrouille. Quand j'étais CP,
oui.
Non, un peu plus jeune quand même, hein, donc, puisque j'étais dans les scouts 12-17, et puis après je suis passé, donc j'étais à quel âge? J'étais chef de troupe, et puis avec mon épouse, plus tard, ici à Rosières-Saint-André, la partie Rix-Ansart, on a quand même tenu les unités guides et scouts pendant 13 ans, donc comme chef d'unité.
Quelles sont les valeurs qui sont essentielles dans le scoutisme? Si vous deviez en parler à des gens qui ne connaissent pas du tout le scoutisme, pourquoi leur diriez-vous d'y inscrire leurs enfants?
Pour moi, c'était d'abord une découverte de la nature, parce que quand j'étais gosse... Ma maman, c'était le petit costume, je ne vais pas dire le costume marin, mais ça y ressemblait très fort, avec les petits souliers vernis et les chaussettes blanches. Et le dimanche, on allait, mes parents allaient prendre un verre à Notre-Dame-aux-Bois. Et moi, ça me tuait ce truc-là, parce que je voyais les gosses qui couraient dans la forêt, et puis moi, je devais rester à table. C'est une partie de ma jeunesse que je n'appréciais pas trop, et quand j'ai eu l'occasion, heureusement, j'ai pu. Ma maman, donc. Connaissait un aumônier, un vicaire en fait, sur Woluwe-Saint-Pierre, à la paroisse Saint-Pierre d'ailleurs. Et alors on m'a placé chez les Louveteaux et puis là je n'ai pas décollé. Mais voilà, donc pour moi c'est un apprentissage à la nature, certainement, mais aussi l'apprentissage aux autres. Oui, c'est une ouverture aux autres, le scoutisme pour moi. Ce sont des valeurs, hein. Il y a quand même la promesse, hein. C'est la promesse de quelque chose. C'est pas n'importe quoi, la promesse. Ça, encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai ce petit pincement, donc il y a un manque aussi de ne plus y être. Voilà. Enfin, j'ai encore pas mal d'attaches avec la Fédération rue de Dublin.
Et de manière générale, dans votre vie, quelles sont les valeurs ou les moteurs qui vous ont porté ou guidé?
Enfin, moi, c'est fort l'amour, quoi. C'est l'amour des autres et ne pas s'emmerder avec des conneries, ne pas faire chier son voisin, excusez-moi du terme. Mais enfin, ça peut se dire aujourd'hui. Hein. On entend ça partout. Mais voilà, bon, peut-être je vais être conciliateur aussi, médiateur, conciliateur. Voilà, parce que la vie est courte et quand on sait rendre l'autre heureux, bien que ce ne soit pas évident. On a tous son caractère et parfois ça pète un peu.
Vous êtes à la tête d'une tribu, hein. Ah, vous avez 5 enfants, oui. Et 19 petits-enfants. Mmh. Alors justement, quelles sont les valeurs que vous avez eu envie de leur transmettre?
Ah ben certainement à mes enfants, justement, peut-être les diriger vers le scoutisme, et ça a marché. Ils ont suivi cette idée-là, puisqu'ils ont tous été dans les mouvements de jeunesse, dont j'ai quand même 4 filles et un garçon. Ils sont tous passés par là, ils ont fait leur temps comme petits louveteaux, baladins, etc. Ensuite, ils sont passés, ils ont fait des intendances, ils ont été chefs, et puis j'ai quand même une de mes filles, avec mon beau-fils, qui ont été chefs d'unité également, voilà. Et c'est dans le scoutisme qu'ils se sont rencontrés. Et d'ailleurs, ils ont transmis à leurs enfants toutes ces valeurs, parce que nos petits-enfants aussi ont été dans les mouvements de jeunesse.
C'est une école de la vie.
Oui, bien, certainement, oui, bien sûr. Et puis oui, apprendre la vie parfois un petit peu plus rude aussi. Hein, et...
Loin des écrans.
Oui, oui, oui. Bien que tout ça change aussi aujourd'hui. Hein, donc, on a encore nos petits-enfants dans ces mouvements de jeunesse et ils ont l'air de s'y sentir bien aussi.
Et vous êtes heureux d'aller les reprendre à la fin des camps?
Oui, la fin des camps, enfin ça c'est plus le rôle des parents, hein, donc, mais oui, parfois on va les rechercher à une réunion, voilà, non, bien. Mais on les suit quand même de près, quand il y a une fête d'unité, on essaye d'y être, en tout cas peut-être plus mon épouse que moi, mais voilà, c'est une question d'organisation, ça simplement.
Vous le disiez, avec votre épouse, vous avez été tous les deux chefs d'unité, c'était aussi l'occasion de vivre quelque chose en couple, un projet commun?
Oui, bien sûr. Bien sûr, puisque rien que les visites des camps, on les faisait à deux, que ce soit chez la partie fille de la GCB, les guides catholiques, et tant les garçons à la FSC, la Fédération des scouts catholiques, on allait ensemble faire les camps des deux côtés, puis on avait pas mal de réunions. J'organisais également des camps pour les chefs, ce qui était assez exceptionnel, parce que ça se fait pas trop.
C'est-à-dire?
Ben voilà, donc on rassemblait tous nos chefs, on essayait de trouver une période et... Je leur faisais découvrir le Vercors, je leur faisais faire de la spéléologie, on partait faire des camps, rien que pour les chefs. Et ça soudait très fort les différentes sections. En fait.
Jean-Marie Van Butseleu, avant d'évoquer vos marches caritatives à destination de l'enfance, pour aider vraiment les enfants, on va marquer une première pause en musique. Votre choix musical se porte sur...
C'était une musique de Cantat, donc le vent...
Le vent t'emportera.
T'emportera, oui, c'est ça, exactement.
Eh bien, on écoute ça et on vous retrouve dans un instant. Le vent nous portera.
parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte. Infinité de destins, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières.
La suite de Plein Feu, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marie Van Butselen, qui est surnommé le marcheur au grand cœur. D'où vient ce surnom? Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou il vous a été donné?
Ce sont les médias, c'est principalement la presse qui un jour, il m'a appelé le marcheur au grand cœur et moi je leur ai demandé de m'appeler un marcheur au grand cœur. Voilà, et puis c'est resté.
C'est une belle appellation.
Oui, bien sûr, moi je pense, ça me va bien.
Quelle a été votre première longue marche? On parle parfois de marche au long cours. Ou votre premier pèlerinage?
Courter les vies. J'ai plus
ça, c'est la première marche caritative. Mais il n'y a pas eu de marche personnelle avant? Vous n'avez pas de souvenir?
Non, ben je vous dis, avec le scoutisme, bien sûr, là, il y avait beaucoup de marches. Même quand j'étais chef d'unité, puisque je vous ai dit que j'amenais les chefs même sur des camps. Et là, forcément, il y avait des marches. Hein. Je leur faisais découvrir, par exemple, dans le Vercors, le Grand Vémont. C'est une très belle balade, longue durée, je vais dire. Et là, forcément, on marchait beaucoup. Mais ma décision, c'était vraiment donc, un beau jour. Voilà, pour Télévis, je me suis dit, tiens, je vais marcher sur la Haute-Savoie. Ma première marche, c'était un lieu qui me plaît beaucoup. Ce sont les Contamines Montjoie, en Haute-Savoie, à une trentaine de kilomètres de Chamonix. Et je me suis dit, je dis à mon épouse, écoute, on vient toujours ici en voiture, mais j'ai envie de le faire à pied. Et puis je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, et puis je l'ai fait cinq fois finalement, dans un sens puis dans l'autre.
Et donc chaque fois sponsorisé par le public, vos amis?
Mais c'est-à-dire, donc, le Télévis, donc, il y avait le compte Télévis avec un numéro, voilà, qui se rapportait à mon action, hein, où j'aurais pu vendre des moules frites, et puis ça aurait été pareil, quoi. J'aurais eu un numéro d'agrégation, et bon, moi, je me suis lancé sur une marche parce que ça m'allait bien, quoi. Bon. Et ça a quand même rapporté pas mal d'argent, je n'ai plus de chiffres en tête, évidemment.
Et c'était le départ de cette aventure, finalement,
oui, oui.
Et de marches caritatives à peu près chaque année
Depuis chaque année, oui, je suis parti dans d'autres directions. Bon, il y a eu ces cinq premières, je vais dire, sur les Contamines Montjoie. Puis je me suis lancé, j'ai fait Marseille également, j'ai fait le lac Sainte-Croix, Moustier-Sainte-Marie. Ça me collait bien à la peau parce que donc Moustier-Sainte-Marie, vous avez une petite chapelle qui s'appelle Notre-Dame de Beauvoir. Et dans le passé, en fait, les villageois de la région allaient avec leur enfant malade à cette chapelle et espéraient la guérison. Peut-être qu'il y en a eu, je ne sais pas, en fait. Bon. Mais ça collait bien avec la marche, le but de la marche, puisque je marche pour les enfants malades principalement et les familles dans le suivi de la maladie.
Est-ce qu'il y a également une démarche de foi? Quel est votre rapport à la foi?
Je suis croyant, pas pratiquant, 100%, mais j'ai du bonheur, je ressens quelque chose d'énorme quand je franchis la porte d'une église lors de mes marches, une chapelle, une église de village qui est ouverte, parce que malheureusement, il y a pas mal de portes fermées également, mais je m'y sens bien dans une église, même s'il n'y a personne. Hein, donc là, je me recueille pendant 2 minutes, je pense à ceux que j'aime et ça me fait du bien.
Chaque année, beaucoup de personnes font le choix de marcher vers Compostelle, Rome ou Jérusalem. Est-ce que ce type de pèlerinage spirituel vous parle?
Oui, j'ai tenté d'ailleurs d'aller au Vatican à pied, mais de nouveau pour les causes, pour l'enfance, la maladie de l'enfance. Malheureusement, j'ai été interrompu puisque le pays, l'Italie, fermait d'abord à cause du Covid. Et j'avais déjà réalisé un bon millier de kilomètres et j'étais donc... Les carabiniers donc, en Italie m'ont dit « Voilà, on va fermer le pays, il faudrait que vous rentriez chez vous parce qu'il y a... Il y a un gros problème. » Et effectivement, je me rendais bien compte que tout était désert. J'étais en Lombardie à ce moment-là. Et bon, il y avait déjà pas mal de mortalité. On m'a demandé de rentrer.
Jean-Marie Van Butsele, vous évoquiez l'enfance malade. Hein. Qu'est-ce qui vous touche tellement dans cette cause particulière?
Ben, je trouve que c'est horrible, je trouve, pour des familles d'avoir un enfant qui souffre. Bon, quand on est plus âgé, on l'accepte, la maladie, parce que y a une fin à un certain moment dans notre parcours. Mais un enfant, il a le droit à connaître les belles choses que nous avons sur cette terre, même si tout n'est pas merveilleux. Mais je pense qu'un enfant prend la plus belle partie de ce qu'il reçoit de notre planète, en fait. Oui, bon, je pense pour les familles, c'est important aussi d'avoir un enfant qui est heureux, qui se sent bien. Et pourquoi pas essayer d'améliorer, hein, donc.
On peut relier ça à votre travail auprès des familles qui devaient vivre des deuils compliqués?
Je ne sais pas. Non, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si c'est suite à ça, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Non. Non, non, c'est quelque chose que j'ai en moi sans doute. Voilà.
En 2015, vous prenez la route pour financer le voyage au Mont-Blanc de 15 jeunes du pensionnat Jules Lejeune. Le Mont-Blanc et vous, c'est une longue histoire?
J'ai beaucoup d'amour pour la montagne. D'ailleurs, mon espoir, c'est qu'un jour, mes cendres puissent y être répandues sur le Mont-Blanc. Hein, donc, sur la chaîne du Mont-Blanc, c'est prévu comme ça d'ailleurs. J'espère que ça va se réaliser de cette manière-là.
Non, vous avez déjà pensé à votre départ, à votre mort?
Oh oui, bien sûr. Mais enfin, bon, je commence à avoir un âge où on y pense un peu plus. Mais bon, ça ne me tracasse pas plus que ça. Hein,
donc on peut dire votre âge, 74 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Mais oui, c'est vrai que j'ai mené des enfants de différents pensionnats plusieurs fois. Et puis j'emmène des groupes encore aussi, hein, donc des marcheurs pour l'ASPU, pour l'association sportive, pour le personnel universitaire, donc ici à l'UCL. Donc ça fait des années que je fais ça, donc voilà, je m'y retrouve bien là-dedans, je me sens heureux dans cette nature.
Dans votre parcours, il y a une date qui m'a interpellé également, c'est en 2016, où pour ce même pensionnat, vous emmenez des jeunes vers la bergerie de Faucon, donc dans les gorges du Verdon, c'est là où réside Guy Gilbert.
Guy Gilbert, oui.
Comment s'est déroulé ce voyage sur les terres de Guy Gilbert et votre rencontre avec le fameux curé des Loubards?
Ah oui, mon Dieu, oui. Donc c'était donc avec le pensionnat Jules Lejeune de Wezembeek-Oppem. On avait décidé d'aller leur faire faire des via ferrata du côté de Sisteron en fait. Il y a de très belles via ferrata et aussi je devais les amener dans les calanques sur les parcours, les sentiers de randonnée, mais sentiers aussi un peu sportifs. Hein, travailler un peu sur les cordes, tout ça, des rappels, enfin tout ça. Et puis, il était prévu également donc, de faire la relation entre le pensionnat Jules Lejeune à Wezembeek et le centre Les Faucons dans les gorges du Tarn. Du Verdon, excusez-moi. Et on a été, donc j'ai pris contact avec le père Gilbert, que je connaissais déjà. de Moustier-Sainte-Marie. Je l'avais rencontré déjà sur Moustier-Sainte-Marie. Et donc, on est parti avec ces jeunes là-bas et ça s'est excessivement bien passé. C'est un monsieur, franchement, qui... Il est émouvant, même s'il a un franc-parler. Mais c'est une très belle expérience. Ouais.
Et les jeunes belges et français se sont bien mélangés.
Oui, donc, en fait, vous savez, donc, c'est les enfants, enfin, les jeunes, les adolescents là-bas, donc, s'occupent des animaux principalement. Hein, donc, c'est un travail de la ferme. Et le fait d'avoir cette rencontre avec ici nos jeunes du pensionnat Jules Lejeune, bah, c'était très enrichissant pour eux. Hein. Il y a eu un très bel échange, malheureusement de courte durée, mais important.
Ça a duré combien de jours ?
Oh non, c'était pas en jours, c'était une après-midi complète où ils ont eu l'occasion de visiter la ferme, d'échanger. Il y a eu des discussions, évidemment, notamment avec le père Gilbert. Le père Gilbert les a amenés sur une Jeep Willys faire un tour dans la nature, là, et ça leur a beaucoup plu aussi.
De beaux souvenirs pour eux
oui,
aussi.
Oui.
On va avancer un peu dans les années. L'année dernière, pour la Fondation Bâtisseur d'Étoiles et pour une association monégasque, vous partez de Louvain-la-Neuve vers Monaco, 1250 km. Vous avez alors 73 ans. Comment se prépare-t-on pour un tel périple ?
En général, je m'y mets 6 mois à l'avance. D'abord, je choisis une destination. Et Monaco, donc, elle a été choisie parce que donc, les bâtisseurs d'étoiles ici à Louvain-la-Neuve ont un contact direct avec une association de jeunes, des jeunes défavorisés. Voilà donc...
À Monaco ?
À Monaco même, oui. Et ben, je me suis dit, voilà, c'est une belle destination. Et puis, voilà, donc... Alors, ce que je fais, je prends une carte et de France, je l'étale sur la table dans la salle à manger chez moi, et puis je trace un trait le plus rectiligne possible, et tous les 40, 45 kilomètres, je mets un petit coup de fluo, et puis je regarde quel est le village qui se trouve au centre de ce fluo, et puis je commence à écrire, hein, j'écris aux mairies, donc par des mails personnalisés donc au maire. Hein. Et j'écris aussi aux pompiers, gendarmerie, enfin les organisations sportives également. Et puis j'attends. Je leur envoie d'abord un dossier complet de ce que je voudrais réaliser, ce que j'attends aussi de ces lieux. Et puis j'attends les retours et je vais dire... ici, cette année, pour 32 étapes, j'ai quand même eu 26 couvertures. 26 accueils.
Et qu'est-ce qui marche, en fait ? C'est le fait que ce soit tellement bien préparé. On sent que vous ne partez pas à l'aventure.
Je ne pars pas du tout à l'aventure. Ce qui pourrait être un problème, je n'en ai jamais eu. Mais comme mes étapes sont prévues, hein, au jour le jour, pendant 32 jours, je ne peux pas sauter une étape. Je ne peux pas me permettre de dire aujourd'hui, voilà, je me prends un jour de congé, je veux dire, de repos. Non, parce qu'on m'attend à l'étape suivante. Voyez. Donc, il y a des choses organisées. Il y a des petits accueils à la mairie. J'ai même eu droit parfois à la Brabançonne à mon arrivée avec le drapeau qui flotte sur la mairie. Non, et alors, il y a beaucoup de clubs aussi, des clubs Lions. Je veux dire, ces associations apportent énormément à la marche. Puisque le but aussi, c'est d'aider. Hein. Donc, le LCIF de Lions aide beaucoup.
Vous êtes vous-même membre du
Lions ? Je suis membre éloigné, oui. À Bruxelles-Saint-Hubert, donc voilà.
Concrètement, une étape, ça signifie combien de kilomètres ?
Bah ici, sur 32 étapes, cette année-ci, bah, on a fait le calcul, on a divisé le parcours en 32 étapes, forcément. Donc, je suis à 38 kilomètres, plus ou moins, de moyenne, 38-40.
C'est déjà costaud. Donc, ça veut dire que le rythme de marche est soutenu ?
Oui, disons que je marche entre 8 et 10 heures par jour. Mais il y a des journées où je ne ferai que 25 kilomètres, par exemple, et le lendemain, je vais en faire 48 ou 50. Hein, voyez, donc, c'est vraiment très différent.
Et il y a une préparation physique pour pouvoir tenir ce rythme pendant plusieurs jours ?
Mais non, parce que je suis pas sportif. Je vis sur mes acquis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Vous restez en forme.
Je suis habitué à marcher, je suis habitué à courir. Voilà, et j'ai un peu de chance. Voilà.
Pas de préparation physique particulière, mais un équipement particulier ?
Oui, quand même, puisque
Au minimum des bonnes chaussures. Enfin, j'imagine, moi.
Je vais pas donner de marque, hein, parce qu'on fera pas de pub, mais non, il faut de bonnes chaussures. Il y a les intempéries, évidemment. Hein. Cette année-ci, j'ai ramassé pas mal de flotte. Beaucoup de neige aussi, dans les Causses, dans le Cantal. C'était parfois démoralisant. C'est ce qui me met le plus pénible. C'est moralement, quoi, parfois, l'éloignement familial.
Et pourquoi vous décalez pas un peu vers des mois plus chauds?
Mais parce que c'est la seule période sur l'année où je n'ai pas vraiment d'activité importante. Bon, d'abord le jardin est au repos, rien que ça déjà. Hein. Et puis non, après on va vers les congés de Pâques, donc on part avec nos petits-enfants quelques jours en vacances, hein, ici à la côte belge. Donc ça se casse bien, en fait, c'est 32 jours à la période de février, début mars.
C'est le moment où ça dérange le moins l'organisation familiale.
Absolument.
Est-ce que vous avez un secret pour éviter les blessures ou les cloches aux pieds?
Eh bien oui, je n'ai jamais été blessé, ben, sauf cette année. On fait exception, il faut bien que ça commence une fois, puisque... J'ai ramassé, à partir de la 17e étape, j'ai ramassé on appelle ça une fracture de fatigue ou de stress, enfin je ne sais pas trop, mais enfin oui, bon. Et pourquoi cette année?
Au milieu du parcours.
Ah oui, non, c'était horrible pour pouvoir continuer. Donc les personnes qui m'ont accompagné se sont bien rendues compte que je traînais la patte, mais j'ai terminé. Mais au mental. Oui. Et maintenant je suis en soins pour remettre tout ça d'aplomb. Avec infiltration dans le talon gauche et plus.
Quand vous dites en soins, c'est pour repartir, on imagine.
Ah oui, j'espère. Mais rien n'est fait, je n'ai encore rien, je n'ai pas encore vraiment de destination précise. Il y a déjà des associations qui m'ont contacté. D'ailleurs, dimanche passé, j'étais à Stavelot. J'étais reçu par une association qui s'appelle Speranza. Et c'est un centre qui reçoit des personnes, des enfants, notamment handicapés. C'est un peu un centre inclusif. Et je me suis dit, pourquoi pas marcher pour eux également? Mais il y a toujours les bâtisseurs d'étoiles, il y a toujours mes pensionnats que je porte. Et voilà, on verra bien.
Vous avez l'embarras du choix.
Un jour à la fois.
Jean-Marie, je vous propose qu'on marque une nouvelle pause musicale. D'accord. Et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de Plein Feu et toujours cette aventure de la marche que vous allez nous détailler. Donc dans un instant, à tout de suite.
Les campagnes, et mieux leur tourner le nos sacs de roses. On prendra le train du matin. Sur tous les murs, il y aura écrit de la justice, pas la vengeance, de la justice, pas sur la route.
Troisième partie de cette émission Plein Feu, aujourd'hui en compagnie de Jean-Marie Van Butseleu, un marcheur au grand cœur. Alors Jean-Marie, lors de vos promenades ou lors de vos pèlerinages ou lors de vos marches, appelons-les ainsi, il vous arrive quelquefois de faire des rencontres extraordinaires, des rencontres que vous n'avez pas anticipées alors que vous prévoyez particulièrement bien l'itinéraire. Il vous arrive quand même d'avoir des rencontres extraordinaires.
Ah oui,
vous nous en partagez une, peut-être ?
Oui, il y en a même plusieurs, hein, mais je ne vais pas évidemment... Il y en a deux, en fait, hein, qui m'ont fort frappé.
Hein. Allons-y.
Je me trouvais, en fait, un jour à la sortie d'une mairie, donc un matin, donc je quittais la mairie, ils m'avaient reçu, et je marche, je ne sais plus, un kilomètre, deux kilomètres, puis je vois un monsieur qui arrive derrière moi à vélo, et avec un vélo qui zigzague pas mal. Je me dis, tiens, à cette heure-ci, c'est bizarre quand même. Le petit coup, sans doute, de gnôle, de trop, mais enfin bon. Et non, quand il arrive à mon hauteur, j'ai vu que c'était un monsieur qui avait un handicap. Et il s'est arrêté à ma hauteur, il m'a dit, monsieur, il dit, j'ai vu vos affiches à la mairie, et c'est beau ce que vous faites. Enfin, il m'explique avec ses mots à lui. Et... il a sorti de son sac à dos une baguette de pain. Et il m'a dit, ce sera pour ce midi. Comme ça, vous aurez à manger. Voilà, rien que de le raconter, j'ai du mal.
Donc c'est un pain qui avait une autre saveur.
Hein. Ça, c'était fabuleux comme rencontre. Hein. C'est unique, c'est mieux que tous les dons du monde, ça. C'est quelque chose. Parce que vous repartez vous-même avec le cafard, hein. Je vous garantis que c'est dur. Et alors aussi un jour, je cherchais un lieu pour loger, donc j'arrive dans un village, je crois que c'était en Haute-Marne, je raconte peut-être des bêtises, mais enfin, bon, c'était l'abbaye d'Assé, en fait, mais soit. Je rencontre une villageoise, je dis, voilà, je cherche à loger, elle me dit, ah, mais vous avez donc une abbaye ici, pas bien loin, à 5 kilomètres, j'y vais, et j'ai été reçu par un père hôtelier, là, qui m'a offert le gîte, hein, donc j'étais excessivement bien reçu. On m'a demandé d'assister, en toute liberté évidemment, hein, donc d'assister à l'office. Hein, et j'ai fort apprécié, c'était en grégorien, c'était très joli, des chants vraiment merveilleux. Et le lendemain, évidemment, j'ai quitté après le petit déjeuner. Bon, cette nuitée m'a été offerte par les moines en fait. Eh bien, j'ai eu du mal, quand je suis sorti de cette abbaye, il y avait quelque chose, une attirance, un bien-être que je ressentais au fond de moi, et je me suis mis à téléphoner à mes amis, à mon épouse, en expliquant ce qui m'arrivait, donc je comprenais pas bien, et puis voilà. Bon. Forcément, le naturel revient au galop, mais c'est quelque chose qui reste gravé dans ma mémoire.
Et vous avez eu envie de retourner dans ce lieu par après ?
L'occasion ne s'est pas présentée, mais oui, si je passe par là un jour, peut-être que j'irai revoir, ne fût-ce que de l'extérieur. Et... oui.
Mais ça reste une rencontre qui vous a marqué.
Oui. Mais comme beaucoup dans beaucoup de villages, hein, il m'arrive à pousser la porte d'une église et de m'y recueillir, même 2-3 minutes, penser à ceux que j'aime, et voilà. C'est tout, c'est moi.
Comment votre famille vous soutient-elle dans toutes ces aventures ?
Ah, fantastique. Hein. D'ailleurs, mon épouse, elle travaille dans l'ombre parce qu'elle prépare une grande partie de mes marches. Elle les organise, elle met sur papier. Elle est fort près de moi. Et puis alors, vous avez les petits mots d'enfants, de mes petits-enfants qui m'envoient un petit mot, ou qui me font, dans les plus jeunes en tout cas, ils me font un petit bracelet. Tiens, papy, tu porteras ce petit bracelet pendant ta marche, tu penseras à moi. Voilà, des choses pareilles.
Quand vous avez commencé ces marches, il n'y avait pas de GSM?
Ah non, pas du tout.
Maintenant, vous circulez avec un GSM, ça doit quand même changer très très fort le rapport aux autres, le fait de pouvoir être en lien permanent.
Ah oui. Avec la famille, ça, certainement, mais aussi avec certaines personnes que j'apprécie, des copains et les associations aussi. Hein. Donc on fait parfois le point, donc je reçois des informations sur le montant des dons, et ça me booste aussi, ça me porte.
Et quand vous faites vos 35-40 kilomètres journaliers, y a-t-il des personnes qui viennent vous accompagner, peut-être pour quelques kilomètres, marcher avec vous?
De plus en plus. Ça fait maintenant quelques années que... Enfin non, ça fait 2 ans que je pars des bâtisseurs d'étoiles ici à Louvain-la-Neuve. Et là, au départ, donc, il y a un petit déjeuner qui est offert aux personnes qui viennent soutenir l'action ou qui viennent marcher les premiers kilomètres, hein, comme vous le dites très bien. Et cette année-ci, on était quand même 150 marcheurs pour la première étape. Évidemment, au fil des étapes, il y a de moins en moins de monde, mais je suis rattrapé, notamment en France, par des marcheurs locaux dans les villages qui me contactent en disant, voilà, demain, on partira avec vous, on fera 10 km, 15 km. Et là, c'est évidemment fantastique parce que la relation est forte et puis on apprend beaucoup de choses hein, sur la région grâce à ces personnes. Et parfois, ils me font prendre des raccourcis aussi puisqu'ils connaissent bien leur terrain. C'est sympa. Non, j'ai du monde, je vais dire quasi tous les jours. Enfin, du monde, non, c'est parfois une personne. Hein. Mais quasi tous les jours, oui, un accompagnement. Et puis mon épouse qui vient les 10 derniers jours aussi m'accompagner sur 5 ou 10 kilomètres aussi. Elle vient à ma rencontre, en fait, et on termine ensemble l'étape.
Et la dimension nature, c'est important pour vous?
Oui, bien sûr. Je marcherai très peu en ville.
Ça fait partie vraiment du plaisir
de la démarche. Certainement. La nature, dans tous les sens du terme, la faune, la flore, on fait de belles rencontres, hein, des animaux, du chevreuil, pourquoi pas le sanglier, ça m'est déjà arrivé aussi. Il y a des mauvaises rencontres parfois aussi, mais c'est excessivement rare.
Mauvaises rencontres humaines, vous voulez dire?
Oui, humaines, oui. Mais, oui, il fut une année où j'étais agressé. Ça s'est bien terminé.
Bon, c'est l'essentiel. Et comment occupez-vous vos pensées pendant tous ces kilomètres? Est-ce que vous disiez, vous marchez pendant une dizaine d'heures sur la journée? J'imagine qu'on doit avoir un peu toutes sortes de pensées, certaines plus positives, certaines plus porteuses.
Je ne sais plus trop à quoi je pense, mais ce qui m'arrive beaucoup, c'est de pousser la chansonnette, quoi, d'essayer de me rappeler de vieilles chansons, notamment du scoutisme. Et ça revient. Et on fait un peu le point avec soi-même aussi. Hein, parfois, parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Ça m'arrive aussi, surtout quand la météo est mauvaise.
Hein. Les principales difficultés, c'est quoi?
La météo, hein. Bien sûr. Ouais. Et météo et éloignement familial, parce que c'est long quand même, 32 jours.
Donc il y a des moments où vous vous sentez seul?
Mais une solitude, même si je suis accompagné. Hein. Donc il y a parfois cette envie de dire le manque de son chez soi.
Voilà. De votre famille?
Oui, il y en a qui ont le mal du pays, mais moi c'est plus le mal de la famille, le manque. Pourtant, j'étais habitué dans mon métier, hein, puisque je partais quand même aussi en mission, mais j'ai toujours eu ça, cette difficulté de... Oui, 2-3 jours, ça allait, mais dès que ça durait un peu plus longtemps, je suis parti pour le tsunami, les identifications en Thaïlande, mais là c'était dur, parce que c'était des périodes parfois de 3 semaines, 1 mois, et voilà, les charniers du Kosovo, il y avait plein de choses.
Hein. À 74 ans, qu'est-ce qui vous pousse à continuer ces marches?
Ben, je vous dis parce que j'aime ça, et oui, c'est une ouverture sur la nature, une ouverture sur l'autre, et puis c'est utile, je pense, parce que dans la recherche, j'ai besoin énormément de fonds, et même si ce que je fais, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, hein, parce que bon, hein, quand je vois évidemment les résultats de Télévis, je tiens, oh mon Dieu, et moi j'arrive avec mes 22, 23, 24 000 euros sur un mois, c'est rien, quoi.
Et vous avez une idée de ce que ça peut représenter au total sur les différentes marches que vous avez faites?
Ben, certains ont fait le calcul, il paraît que j'aurais pu dépasser 500 000 euros depuis le temps. Voilà. Et alors, on m'a dit également, ils ont fait le calcul de distance, ça serait le pôle Nord aller-retour,
oh là là.
À pied. Donc, ouais.
Il y a quand même une fierté face à ces chiffres hors du commun.
Oui, ben je suis content, bien sûr. Oui, on a envie de faire plus à chaque fois au niveau finance, hein, je veux dire au niveau don, mais c'est difficile. En plus, pour les personnes aussi, les donateurs, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, donc la vie n'est pas facile.
Les relais de votre démarche dans la presse, est-ce que ça vous encourage ou bien vous le considérez plutôt comme une obligation qui fait partie du soutien à l'association que vous défendez?
C'est peut-être dur à dire, mais pour moi, c'est un moyen aussi de toucher le public. Parce que, bon, bien souvent, le numéro de compte apparaît, évidemment, le numéro de compte de l'association, de la fondation, la Société Royale pour la Protection de l'Enfance, pour la cité, ici. Et oui, c'est un moyen pour arriver à quelque chose d'un peu sérieux, quoi, au niveau rentrée de dons.
On va justement en venir à cette dernière étape pour vous qui était en février. Direction Palamos, pourquoi cette destination en particulier et quelle association désiriez-vous soutenir?
Eh bien, donc, de nouveau, il y avait la fondation écologique là-bas sur place, à Palamos. Donc là, ça collait bien avec le but de la marche. Et puis, comme on avait choisi donc cette étape Palamos, tout se mettait bien en place, en fait, pour aider également cette association là-bas, qui correspond bien à cette idée de la marche.
Voilà, vous essayez souvent de trouver un pendant belge aux associations que vous défendez?
Oui, hein, donc comme à Monaco, c'était le cas notamment.
Donc, c'est une manière de réunir les peuples et les enfants du monde?
Oui, et puis je pense que terminer une marche sur un lieu en disant « voilà, écoutez, merci, vous m'avez bien reçu, puis au revoir ». Non, je pense qu'il faut aussi servir ces gens qui vous ouvrent leurs portes aussi, hein, donc...
Vous venez de dire un mot important, hein, Jean-Marie Van Butsel, le servir. Ça reste ben quand oui, même dans votre ADN.
Ah ben oui, puisque c'est la devise des routiers. On appelait ça dans le temps comme ça, les grands scouts, hein, les scouts aînés. Maintenant, on appelle ça, je pense, les pionniers. Il y a eu les JER, les jeunes en route, etc. Oui, servir. Il y avait scouts toujours aussi. Hein.
Quand on arrive à la dernière étape du voyage, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe, qui est organisé?
Ça dépend des années, mais en général, oui. À Monaco, on a été évidemment très bien reçus par la princesse Caroline et sa fille Charlotte.
Oui.
C'était évidemment un très bel accueil, fabuleux. Ici, à Palamos aussi, on a été reçus par la mairie. Ils nous ont organisé, donc, notamment avec certains Belges qui sont établis là-bas, un très bel accueil, il y a eu un repas, et le bénéfice du repas est parti vers le but de cette marche.
Et je voyais qu'à Monaco, vous aviez aussi reçu un hommage de la part de l'équipe de Division 1 de football, donc de Monaco.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur aussi, de voir que voilà, l'exploit sportif et humain est vraiment salué.
Oui, c'était... Bien, je ne m'y connais pas trop en football, mais je vais décevoir des personnes, certainement. Mais voilà, c'était marquant quand même. Oui, on a reçu un très beau t-shirt signé par tous les joueurs de l'équipe monégasque. Et d'ailleurs, ce t-shirt, je l'ai remis à un de mes petits-enfants qui lui-même fait du football. Il était très fier d'ailleurs de le recevoir.
L'année prochaine, vous comptez rechausser vos bottines de marche pour une association?
C'est pas exclu. Mais j'ai encore rien réalisé, en tout cas sur papier. Mais voilà, j'ai déjà été approché par des associations qui me disent « Tiens, écoute, Jean-Marie, pourquoi tu ne marcherais pas pour nous ?» Et voilà.
Vous avez encore un peu le temps. Hein. Vous avez dit 6 mois de préparation pour le mois de février.
Oui, mais ce n'est pas exclu. Si la santé reste un petit peu correcte, eh ben, pourquoi pas.
Et est-ce qu'il y a une distance minimale que vous vous imposez? Ça pourrait être un peu moins long, par exemple?
Non, je ne pense pas, parce que pour moi, ça doit rester aussi un exploit un peu sportif. Ça, voilà, ça c'est pour mon bien-être intérieur. Il faut une performance, je crois. Voilà.
Donc l'exigence peut être ajoutée aux qualificatifs qui vous définissent?
Oui, il faut donner de sa personne pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Donc, moi, je pense que donner des kilomètres et recevoir, ça va bien, ça colle bien.
Dernière question. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà planifié votre départ, votre mort. Est-ce qu'avant ce jour, vous avez encore un rêve à réaliser, une envie, un challenge?
Sans doute qu'il y aura la continuité de mes actions, mais non, j'ai pas. Non.
Vous êtes heureux de vos choix de vie?
Oui, une année à la fois, et voilà, moi, ce que mon souhait, c'est que la famille reste unie, mes enfants, après moi, continueront à s'aimer. Ce sont des souhaits de la vie, ça. Hein. Je pense que toute personne pense à cela. Hein, c'est le but. C'est une réussite, en fait, finalement.
Bien, Jean-Marie Van Butzele, un tout grand merci d'être venu nous partager votre expérience, vos parcours et votre parcours de vie qui est vraiment exceptionnel. Un tout grand merci encore. Merci, Angélique.
Merci à vous.
Avec plaisir. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Et on souhaite à tout le monde une très belle journée à notre écoute. Et à très bientôt pour une prochaine Plein Feu. Au revoir.